Tempo classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous. Alors quand dans le milieu des organistes on parle de François Henri, tous les regards se tournent vers l'église de la Madeleine à Paris, vers son orgue Cavaillé-Coll et vers son organiste titulaire dont le prénom complet est, si je prends ma respiration, François Henri Jacques Marie Robert Houbart. C'est lui que je reçois ce soir. Bonsoir François Henri Houbart.
Bonsoir Dominique.
Alors on va juste expliquer rapidement la raison de votre passage à Nancy et qui nous permet de pouvoir réaliser cet entretien. L'Orchestre d'Harmonie de Vendeuvre a donné les 6 et 7 avril dernier la 3e symphonie de Saint-Saëns à la basilique de Saint-Nicolas-de-Port et à l'église Sainte-Bernadette de Vendeuvre. Un 3e concert aura lieu à Paris le dimanche 14 avril à l'église de la Madeleine et la partie d'orgue que j'ai eu le plaisir de jouer le week-end dernier sera assurée par François-Henri Houbart, le patron des lieux. Alors on écoute d'abord ce superbe instrument.
Thank you.
C'était le final de la première symphonie de Louis Vierne par François-Henri Houbart, mon invité de ce soir, sur son instrument de l'église de la Madeleine à Paris. Alors François-Henri, comment on tombe dans cette marmite bouillonnante qu'est le monde de l'orgue ?
Oh, ça remonte à un petit moment, là, déjà maintenant pour moi. Il faut remonter à 1960. Mes parents m'avaient mis en pension chez les Pères Dominicains dans le Tarn, à l'école de Sorèze, qui est une ancienne école royale fondée par Louis XVI et qui était redevenue une école, on va dire, encore avec une tradition militaire et école religieuse, sous le père Lacordaire. Donc on avait, j'ai commencé par le piano évidemment. J'avais la chance d'avoir une mère qui avait fait du piano, qui était très artiste. Donc elle s'était rendue compte qu'il y avait quelque chose chez le petit, chez le petit dernier, qui l'attirait vers la musique. Donc elle m'a fait faire du piano. Et au bout de 3 ans, j'ai commencé l'orgue. Nous avions un joli petit puget à la chapelle de l'école, et l'instrument m'a fasciné. Les sons, voir l'organiste qui faisait actionner des mécanismes, et cet orgue me paraissait énorme. Et je crois que si je le voyais maintenant, je crois que c'est un petit instrument d'une 14 jeux, quelque chose comme ça, qui est démonté malheureusement, qui est l'école a fermé, et cet orgue se trouve à Fangeau. Je crois que c'est le département de l'Aude, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc j'ai été fasciné par les timbres, tout bêtement, savoir ce qui s'est passé, j'en sais rien, pourquoi, j'étais attiré plutôt par le violon, et nous avions une musique, puisque nous avions le lever des couleurs tous les dimanches matins, avec l'uniforme évidemment, puisque c'était une école de tradition militaire. Et figurez-vous, j'étais trombone. Je jouais du trombone. J'avais commencé par le clairon, mais j'étais pas vraiment très doué pour le clairon, mais assez mauvais. Et on m'a fait bifurquer vers le trombone, qui avait une particularité, c'est que c'était pas le trombone à coulisses, c'était le trombone à piston. Et j'en rêve souvent, je continue. J'adorais mon trombone, mon Dieu. Je sais pas ce qu'il est devenu, il existe peut-être même plus, mais j'aimais bien. Voilà. Donc, j'avais un premier professeur d'orgue, qui est décédé déjà il y a un petit moment, et qui avait fini sa carrière à Lavore, là où il y a un très beau cavaillé-école, à la cathédrale Saint-Alain.
Alors vous êtes passé entre les mains de qui après ce premier professeur ?
Après, alors, en 66, j'avais la chance d'avoir un père prieur tout à fait remarquable, le révérend père Montserret, que j'admirais énormément, et qui a vu que j'étais vraiment fait pour la musique. J'avais pourtant une professeure de piano qui habitait Castres, un bon professeur d'orgue, mais il a dit à mes parents à l'été 66, « Vous reprenez votre fils, il végète », disait-il. Et donc, ce qui était très courageux, parce que je m'occupais de la chorale, j'étais trombone, je jouais la plupart des messes, nous étions 3, avec un ami Loïc et Jean-Philippe Delrieux d'ailleurs, qui a pas mal fait parler de lui avec des éditions, etc., qui était organiste à Saint-Jérôme à Toulouse, et qui était directeur d'une école de musique dans la région d'Alès, où il habitait. Donc nous étions 3, et les offices, les messes de les vêpres, le salut du Saint-Sacrement. Nous avions les messes de division, parce que nous avions 4 divisions, les petits c'était les verts, après il avait les bleus, les jaunes et les rouges, c'était les premières, seconde première, terminale. Donc on avait quand même pas mal d'offices, et le père supérieur a dit, vous le reprenez, il faut qu'il rentre au conservatoire. Chapeau. Ben, les dominicains sont des éducateurs, c'est des gens près de la culture. Et je l'ai retrouvé, ce père prieur, à Saint-Maximin, un jour, un pèlerinage avec la paroisse de la Madeleine, et j'ai cru le reconnaître à la Sainte-Baume. On était chez les religieuses, et je dis à la mère supérieure, mais ça serait pas le père Montserret, je crois que je le reconnais, il avait 90 ou 92 ans. Et je suis allé le remercier. Et il est mort quelques années après, ce que je raconte à une quinzaine d'années. Donc je l'ai remercié parce qu'il m'a orienté de façon extraordinaire. Et malheureusement, nous n'avions pas de conservatoire. Alors, conservatoire, oui, mais pas de classe d'orgue à Orléans. J'ai travaillé avec l'organiste de la cathédrale d'Orléans jusqu'au jour où Robert Boisseau, qui entretenait l'orgue sur lequel je m'exerçais à Saint-Paterne à Orléans, où il y a un petit ancien cavalier-école refait par lui, Robert Boisseau, et qui disait, comme le père supérieur, celui-là, il perd son temps. Alors il me dit, François-Henri, allez. Un jour, il était de passage à Orléans pour faire de l'entretien de plusieurs instruments. Il dit, allez, dimanche, direction Notre-Dame, je te présente à Pierre Cochereau, tu viens avec tes parents, parce que moi j'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Allez, direction, 16, ben je crois que c'est 16 ans, oui. Direction Notre-Dame, et Pierre Cochereau m'a bien orienté sur Suzanne Chaise-Martin. Et puis voilà, de fil en aiguille. Après, ça a été Michel Chapuis à Strasbourg, conservatoire. Finalement, le seul conservatoire que j'ai vraiment fait en orgue, c'est 2 ans seulement, avec Michel Chapuis, où évidemment, ça s'est remarquablement passé. Mais tout ça, c'est un enchaînement. On est, vous le savez, vous, Dominique, on sait pas. Les gens me disent, mais vous avez voulu être organiste quand? Mais j'en sais rien du tout. On fait des études, on est passionné par. On joue les fugues de Bach, on joue du Vierne, on se pose pas trop de questions. On est gourmand de musique, d'orgue, de piano, de clavecin, et on faisait 200 km pour aller écouter un grand maître. Et puis voilà. Puis un jour, tout se déclenche. À vrai dire, c'est simplement Francis Chaplet qui passe dans le Loiret en 74. Il y avait une série pour la radio avec Jacques Merlet, qui était à Radio France, l'ORTF à l'époque encore, la fin de l'ORTF, et puis qui me remarque, parce qu'il m'entend jouer dans un petit patelin du Loiret, il m'entend jouer, je crois que c'était le 6e Chorale Schubler. Et ce que je savais pas, c'est qu'il est dans la sacristie, il m'écoutait, lui allait enregistrer un peu après pour la radio. Et puis... voilà, puis on sympathise. Et puis, un mois ou deux après, coup de fil, Francis Chaplet, dis donc, tu veux pas devenir suppléant à Saint-Séverin? Je me demandais ce qui se passait. Et tout ça, c'est un enchaînement. Puis de Saint-Séverin, un jour, on me dit, ça t'intéresserait pas d'être à la Madeleine? Bah oui, bon, bah pourquoi pas. Finalement, on est pris dans un rouage et on sait pas trop ce qui se passe. On est passionné d'abord, hein. C'est la passion. On dévore la musique. C'est Suzanne Chaise-Martin qui disait à ses élèves, François-Henri, il dévore la musique. Oui, parce qu'elle était surprise, on me donnait une pièce, mais moi, quelques jours après, elle était jouée par cœur dans le tempo, parce que on était fous de musique, on aurait fait n'importe quoi, des centaines de kilomètres à pied, finalement, pour jouer à un orgue, écouter un grand maître, et c'est ça, c'est la vie.
C'est la vie d'organiste. Alors, l'arrivée à la Madeleine, c'est l'arrivée qui est précédée par une longue lignée d'organistes. Et on va écouter une pièce de Nadia Boulanger, qui a été suppléante à la Madeleine. C'est un cantique pour piano et mezzo-soprane. C'était donc une pièce de Nadia Boulanger, une des suppléantes de l'église de la Madeleine, dont l'actuel titulaire est mon invité d'aujourd'hui, François-Henri Houbard. Alors François-Henri, vous avez une sacrée lignée d'organistes titulaires à la Madeleine qui vous ont précédé.
Oui, j'ai beaucoup de chance de succéder à des grands musiciens et je pense très souvent à eux. Je ne vous cache pas qu'il y a quelques heures, je faisais une visite de tout un groupe de Suisses, 35 Suisses, et je leur disais, regardez cet escalier avec les becs de gaz, les forêts à Connu, Saint-Saëns, c'est le même décor qui n'a pas changé. Je pense beaucoup à cette tribune, à cet escalier qu'empruntait Franz Liszt quand Camille Saint-Saëns s'était organisé. Je pense à Bruckner, je pense à Clara Schumann qui venait voir Camille Saint-Saëns. Mais surtout Franz Liszt. Franz Liszt était très proche de Camille Saint-Saëns. Franz Liszt disait que Camille Saint-Saëns était le plus grand organiste du monde. Il s'admirait beaucoup. Il ne faut pas oublier que la troisième symphonie avec orgue est dédiée à Franz Liszt. C'était une grande époque, celle de Saint-Saëns. Alors évidemment, vous avez Fauré, qui était déjà l'assistant de Saint-Saëns. Les deux s'appréciaient beaucoup. Camille Saint-Saëns et Gabriel Fauré étaient très proches. À l'époque de Saint-Saëns, vous aviez Eugène Gigou, Charles-Marie Vidor, des grands noms de l'orgue qui étaient les assistants. Vous avez eu Lefebvre Velly, juste avant Saint-Saëns, qui était le très grand organiste des années 40-50, ami de Cavaillé-Coll. Saint-Saëns, puis après Théodore Dubois, qui était Grand Prix de Rome, directeur du Conservatoire de Paris. Vous avez eu Gabriel Fauré avec Nadia Boulanger, que vous avez cité tout à l'heure, qui était une toute jeune organiste. Être à l'époque, à 15-16 ans, venir suppléer le maître Fauré, Fauré l'avait bien repéré aussi, parce quelle musicienne. Et donc après, Fauré, c'est Henri Dallier, c'est Édouard Mignon, qui était prix de Rome, d'Orléans, comme moi, qui a une rue à Orléans qui porte son nom. Et vous avez après Jeanne de Messieux, qui malheureusement, de 62, ne reste que 6 ans, puisque la pauvre Jeanne de Messieux est atteinte d'un cancer et décède à la fin de l'année 68. Odile Pierre, qui reste 10 ans. À la Madeleine, et moi depuis 45 ans et 2 mois presque. Oui, 2 mois maintenant. Voilà. Et puis c'est une église, il y a les organistes, il y a l'orgue de chœur qui avait anticipé, qui est de quelques années le grand orgue. Et puis vous avez des événements, vous avez évidemment la création du Requiem de Fauré. Donc c'est ce que je dis aux visiteurs que j'ai encore eu dans la journée à la Madeleine. C'est là qu'a été créé en semaine le Requiem de Fauré. C'est là qu'ont été célébrés les obsèques de Frédéric Chopin le 30 octobre 1849 avec Lefebvre Velly qui joue 2 préludes pour piano de Frédéric Chopin et qu'on chante le Requiem de Mozart. Donc c'est une, je pense aussi à Vidor. Vidor en 1927 qui vient créer sa suite latine après des travaux de la maison Cavaillé-Coll successeur et qui vient créer sa suite latine. Voilà, c'est une église qui ne va pas vraiment de l'avant, on va dire, assez conservatrice, mais où il s'est passé beaucoup de choses, avec une maîtrise qui apparemment, il y a un siècle, était tout à fait remarquable. Et on continue cette tradition. J'ai la chance d'avoir des curés, pas forcément mélomanes, mais qui sont, je pense, l'avant-dernier curé, Bruno Orest, qui est docteur en histoire de l'art. Donc, j'allais dire, ça vole haut. J'ai eu un premier curé qui était aumônier général des Invalides, qui avait été aumônier des armées de terre, qui n'était pas forcément mélomane, et qu'il aurait peut-être eu du mal à décortiquer une fugue, mais qui aimait le beau. On a une belle liturgie, ils savent qu'ils ont 2 beaux instruments, les 2 sont bien entretenus. J'ai eu un avant-dernier curé extrêmement mélomane, qui qui lui, alors, ses vacances, c'était Festival d'Orange, c'est Avignon, c'était Bayreuth, vous voyez, déjà. Un homme charmantissime qui habite près de Saint-Augustin, à Paris, Daniel Ponsard, que j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup de chance. Nous avons depuis un an et demi un curé qui était le recteur de Notre-Dame de Paris, Monseigneur Chauvet, qui est un grand mélomane, qui adore le chant, qui aime beaucoup la musique, qui chante bien, qui aime la belle liturgie, qui aime la belle musique, et qui fait tout pour le... Comme me disait, le maître de chapelle Philippe Mazet, qui restait une vingtaine d'années à la Madeleine, comme il disait, rien n'est jamais assez beau pour le bon Dieu, il disait. Mais c'est vrai, on aime bien faire des belles choses à la Madeleine.
Eh bien, des belles choses, on va en écouter avec le final du concerto L'Égyptien de Camille Saint-Saëns. Thank you. Alors, François Rubard, vous êtes donc l'organiste titulaire de l'église de la Madeleine. Expliquez-nous un peu en quoi consiste ce rôle d'organiste titulaire.
Alors, évidemment, titulaire, il y a les services à jouer en semaine, quelquefois. Hier, j'avais un mariage à jouer à la Madeleine, occasionnellement des obsèques. Alors, c'est évident que les obsèques à la Madeleine, en général, c'est des gens assez connus. J'ai joué des obsèques de personnalités, voilà. Et puis, il y a les services, évidemment, il y a le casuel, mais c'est en priorité l'orgue de chœur, quand même. Le grand orgue intervient de temps en temps, pas mal en ce moment, et puis les messes du dominical. Quand je suis arrivé à la Madeleine, c'était 4 messes au grand orgue sur 7. Et là, maintenant, sur 3 messes, il y en a 2 avec le grand orgue dimanche matin et dimanche après-midi. Et je dirais, bon, ça c'est évidemment important, mais je dirais qu'il y a surtout aussi le titre, même si on est titulaire, pour moi c'est très important, le conservateur de l'instrument. Je veille beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'instrument. J'étais encore il y a quelques jours dans l'instrument. J'aime bien voir comment ça se passe, quand il y a des travaux, ce qui est le cas en ce moment, parce qu'on a refait la façade de la Madeleine. Donc, je suis allé voir un petit peu l'état d'empoussièrement, etc. Parce qu'on avait démonté une partie du troisième clavier qui était contre un mur, qui était fissuré. Alors, ils ont déposé 6 jeux. Notamment les belles flûtes, celles qui ont été remises, de façon à ce que les produits toxiques, chimiques, n'atteignent pas la tuyauterie. Donc je veille, en fait, comme je dirais, ça n'a rien d'extraordinaire, vous qui êtes organiste, hein, vous connaissez la chanson, il faut s'occuper. Alors évidemment, on est plus ou moins écouté, ça dépend aussi du clergé, ça dépend des villes. À la Madeleine, comme je le disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir des curés intelligent, cultivé, sensible, sympathique. Et quand on leur dit qu'il y a telle chose qui ne va pas, il faut accorder l'orgue, ben on va le faire, on a un contrat. Et j'ai la grande chance d'avoir un facteur d'orgue depuis 45 ans avec qui je m'entends extrêmement bien, qui est Bernard d'Argassi, qui était d'abord la maison d'Agnon Gonzalez, avec lequel je me suis très bien entendu, Georges Dagnon, parce que quand je suis arrivé à la Madeleine, j'avais un orgue en très mauvais état. La sécheresse de 1976 avait vraiment crevé les 19 réservoirs de l'instrument. Donc l'air partait dans la nef, mais pas dans les tuyaux. Il y avait des trous énormes, et on entendait surtout du souffle, mais pas des flûtes ou des trompettes et des montres. Voilà, donc on a fait des gros travaux. On a commencé par refaire toute la partie soufflerie, et après on s'est attaqué à la partie tuyauterie. Il y avait des poumons, donc après on pouvait faire ce qu'on voulait. Tout ça avec les conseils d'un très bon facteur, donc Bernard d'Argassi, qui est, bien qu'étant à la retraite, qui surveille avec son successeur Gaël Coutelier, avec qui je m'entends très bien. Et puis quand j'avais des travaux assez importants, je demandais toujours conseil à quelqu'un d'éminent, qui était Michel Chapuis, savoir ce qu'il en pensait, qu'est-ce que tu ferais, gna gna gna, si je devais faire ça, oui, oui, très bien, et puis voilà. Comme notamment la pose des trompettes et clairons en chamade, il y a 22 ans, qui avait été prévue à l'origine par Cavaillé-Coll en 1842, et qui n'avait jamais été posée. Donc voilà, on a évolué, je suis revenu beaucoup plus au Cavaillé-Coll. Quand je suis arrivé, le Cavaillé-Coll en avait pris un petit coup dans la figure, on va dire. On a remis les pressions, on a rouvert on a remis les pressions de Cavaillé, on a rouvert les pieds, j'ai remis un octavin qui avait disparu au clavier de récit. Enfin, tout est beaucoup plus cohérent. Je dirais que l'orgue sonne 10 fois plus Cavaillé-Coll que quand je suis arrivé, où on entendait un mélange qui ne se mélangeait pas, j'allais dire. Mais il y avait ce fond Cavaillé-Coll, puisque 95% du matériel de Cavaillé est toujours en place. Donc même si le diapason est légèrement monté par rapport au 19e siècle. Comme me disait Michel Chapuis un jour, il me disait, c'est incroyable cet orgue de la Madeleine, tu as un orgue qui a quand même été chamboulé et qui finalement est des plus beaux sons qu'à Veille École que je connaisse. Et je crois que c'est tout l'art de ce facteur Bernard d'Argassi qui connaît très bien cette facture, qui l'admire, qui le respecte. Donc on s'est parfaitement entendu, on était vraiment en osmose. Alors je dois dire que arrivant de Saint-Séverin où j'étais suppléant, pendant 4-5 ans suppléant de Jean Boyer, Michel Chapuis, Francis Chaplet, je crois que donc j'avais une petite étiquette musique ancienne, orgue mécanique, tempérament inégal. Je crois que certains ont dû avoir un tout petit peu peur, mais ils avaient simplement oublié, ils ne savaient pas, c'est que j'ai une extrême grande admiration pour la facture de Cavaillé-Coll et que j'aime beaucoup aussi la facture allemande de Schnitger, qui était un facteur que j'admirais beaucoup. Je respecte beaucoup j'aime beaucoup le XVIIe siècle, de toute façon, un petit peu, pour les orgues, pour l'architecture, pour la peinture, bon. Mais je suis surtout respectueux, me dit de toute façon, on m'a nommé sur un Cavaillé-Coll, je ne suis pas là pour tout casser, et bien au contraire, donc j'ai un orgue vraiment très cohérent, et tout ce qui avait été rajouté depuis 1957 par la maison Röttinger-Boisseau, puis après par Daniel Gonzalez, plutôt que de faire, j'allais dire facilement, entre guillemets, comme certains, de tout mettre à la chaudière, on a gardé le maximum. Finalement, depuis que je suis là, on a enlevé un jeu au récit qui n'avait rien à faire là et un plein jeu qui ne se mélangeait pas, qui était neuf, qui ne se mélangeait pas. Tout le reste des jeux de la maison Gonzalez, de la maison Röttinger, sont en place. Les jeux Röttinger harmonisés par Boisseau sont toujours là. Et ce qu'a fait la maison Gonzalez depuis 71, il a suffi de décaler les tailles, de réharmoniser. Et le cornet, par exemple, que j'avais au grand orgue, que j'ai toujours, qui était moyen, qui ne sonnait pas extrêmement bien, on l'a déplacé d'un étage. Il domine maintenant. Bernard d'Argassi l'a décalé, réharmonisé, et c'est magnifique. Donc, plutôt que de se dire, allez, il faut un petit peu réfléchir, les organistes ne savent pas toujours. Bon, réfléchir, malheureusement, quelquefois tombe sur des facteurs, ça les arrange de tout fiche en l'air, comme ça on va mettre du matériel neuf, ça coûtera encore plus cher. Moi non, je suis extrêmement respectueux de toute façon de tout. Donc on a maintenant un instrument avec un fond Cavaillé-Coll, et ce qui n'est pas toujours le cas avec du matériel moderne qui s'incorpore fabuleusement bien à l'instrument de Cavaillé. Donc j'ai deux orgues en un, et tout est cohérent dans une belle harmonie.
Alors ces deux orgues en un, vous les servez évidemment avec le répertoire, mais également avec l'improvisation, puisque vous êtes un des spécialistes français, mondiaux, de l'improvisation, et on va vous écouter dans une de vos œuvres. C'était donc François-Henri Houbart, mon invité de ce soir, au clavier de son orgue de la Madeleine à Paris, dans une improvisation.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors François-Henri, on a vu ce que c'était que l'organiste liturgique, l'amour de son instrument. Maintenant, parlez-nous peut-être un peu de votre rôle d'enseignant et de concertiste.
Alors enseignant, j'ai enseigné pendant 37 ans, surtout au Conservatoire d'Orléans où j'avais créé la classe d'orgue en 1980. Et j'ai pris la suite de Marie-Claire Alain en 2000 et de Suzanne Landa, le Conservatoire de Rueil-Malmaison. Je dirais que c'est... Alors au début, j'ai eu un petit peu de mal, j'étais un peu impatient, moi qui allais assez vite, qui était très rigoureux, comme je disais à mes élèves, je ne serai jamais aussi difficile avec vous que je l'ai été moi avec moi, mais j'ai formé des élèves qui m'ont passionné, et j'ai beaucoup aimé cet échange où j'ai appris d'eux aussi, se poser des questions, mais pourquoi si, pourquoi ça? Ah bah oui, tiens, je ne m'étais jamais posé la question. Donc ça a été un échange qui m'a fait changer, certainement, j'ai probablement pas forcément vu les choses comme avant, et ça m'a fait poser des questions, probablement pour certains répertoires, je disais toujours à mes élèves, écoutez-vous, bon moi ça je le faisais respirer, chanter, et peut-être qu'à force de leur répéter ça, ça m'a fait changer, parce que quand je m'entends maintenant, quand j'entends des enregistrements de moi, quand j'avais 25, 30 ans, 35 ans, je trouve que quelquefois c'est un petit peu rapide, vous voyez. Et les élèves, en fait, m'ont fait évoluer. Je suis pas le premier à le dire. D'ailleurs, j'avais eu des discussions comme ça avec Marie-Claire Alain, avec Michel Chapuis, avec Francis Chaplet. Je trouve que cet échange est très enrichissant des deux côtés. Voilà, pour la partie de l'enseignement.
Les concerts.
Alors, les concerts, ben, j'en ai donné beaucoup, dans beaucoup de pays, soit seul, soit avec Maurice André, avec lequel j'ai tourné pendant 10 ans, avec orchestre, je pense à l'orchestre des Pays de Loire que dirigeait à l'époque Marc Soustrot, où on allait jouer, je crois que j'ai fait à Bonne, quand il dirigeait la musique à Bonne, j'ai dû faire le concerto de Poulenc, j'ai fait une demi-heure avec son assistant, très bien, un Allemand, et la symphonie de Saint-Saëns, évidemment. Alors là, la symphonie de Saint-Saëns, c'est des dizaines et des dizaines de fois. J'ai découvert des instruments, évidemment, extrêmement intéressants. J'aimais bien. Mais ça n'était pas ma priorité. J'allais dire vulgairement, je suis un peu pantouflard, et je faire des tournées, l'avion, attendre une heure après le... D'abord, j'ai peur de l'avion, donc ça c'est un peu embêtant quand il faut aller au Japon, au Canada. J'ai tourné au Canada, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais ce n'était pas... Bon, je l'ai fait avec plaisir, mais ça n'était pas une priorité d'aller à l'hôtel, de changer tous les soirs. J'admirais énormément des Pierre Cochereau, des Marie-Claire Alain, des Olivier Latry, des Thomas Hospital, maintenant, qui font ça, parce que, comme on dit, c'était pas forcément mon truc. Mais je l'ai fait à fond, je me suis appliqué, j'ai joué des instruments. Je me souviens d'un Rigueur à Tokyo, au Century Hall, des très beaux instruments que j'ai joués au Canada, en Angleterre. Je me souviens à Cambridge, à Washington, enfin, j'ai inauguré un ou deux orgues en Guyane, par exemple, voilà. Ça, c'est intéressant, des belles rencontres en Guyane avec je peux le citer, Joseph Ploug, qui est lorrain, qui est d'ici, et qui a fait un travail en Guyane tout à fait extraordinaire, qui a fait installer des orgues, notamment à la cathédrale de Cayenne, et qui est un homme vraiment adorable et extrêmement sympathique. Voilà, donc j'ai pris du plaisir, mais ça n'était pas une priorité. La priorité, c'était de bien rester en France, de ne pas aller trop loin, surtout pas prendre l'avion, mais bon, là, je n'avais pas le choix. ne pouvais pas aller jouer à Alger en y allant en pédalo, ça c'est clair. Hein, j'ai inauguré un orgue là-bas. Non, je n'ai pas inauguré. Je ne me souviens plus. À Alger, à Notre-Dame d'Afrique, on avait été me chercher parce que Saint-Saëns avait inauguré l'instrument un siècle avant, c'est ça, voilà. Mais un joli cavaillé-école à Notre-Dame d'Afrique, tout à fait. Voilà, donc... Ça, c'est des souvenirs. Plusieurs organismes, des amis me disent « Ah, mais tu devrais raconter tout ça. » C'est vrai, j'ai même parlé à Marcel Dupré, donc maintenant, ça paraît tellement loin. Quand je dis que j'ai dit bonjour au général de Gaulle, les gens se demandent de quel siècle je suis. Et oui, c'est... Et puis d'avoir fréquenté des Robert Boisseau, qui m'a beaucoup aidé et m'a fait découvrir la facture d'orgue, la belle facture d'orgue, des Pierre Cochereau, des Michel Chapuis, Gaston Litaise, que vous avez extrêmement bien connu, évidemment. C'est un métier passionnant, la facture d'orgue, et là, le métier d'organiste, pardon, parce que il y a l'architecture, il y a la facture, on s'intéresse à plein de choses, le répertoire, on a un répertoire éblouissant, et ça ouvre à l'histoire, à plein, le piano, la littérature pour clavecin, c'est notre cousin Germain quand même, le clavecin et le piano un petit peu plus tard. Donc on a une belle culture, je dirais. Nous les organistes, on a de la chance, hein, n'est-ce pas ?
Ça sera la conclusion, on a de la chance, effectivement. Merci François-Henri Houbard de nous avoir consacré cette heure de votre temps toujours précieux, même si vous êtes un petit peu à la retraite maintenant, hein, beaucoup même.
J'arrête pas.
Ben voilà, un retraité actif, oui. C'est comme ça qu'on les aime. Merci à vous,
merci
au technicien qui nous a accompagnés ce jour, et puis à la semaine prochaine.